1982-2022, Radio Alpa, 40 ans de radio libre.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une certaine émotion que je reprends l'antenne ce soir. D'abord, merci à Jean-Yves de m'avoir permis de refaire cette émission Modulation. Émission Modulation que j'ai fait pendant 6 ans, dans les années 85. Cela ne nous rajeunit pas. Donc, c'était au début de Radio Alpa. Et c'est avec une certaine fierté en plus que je fais cette émission aujourd'hui, un 2022, puisque chacun a toujours en tête cette date du 10 mai 1981, la date de l'élection de François Mitterrand. Et François Mitterrand qui aura dans une de ses premières actions culturelles de libérer les ondes et de faire en sorte donc que ce soir, 40 ans après, je puisse être là à vous parler de la musique classique, puisque c'était mon émission, Modulation, tous les jeudis, de 20h à 22h30. J'ai eu un réel plaisir, parce que pour moi, ça a été une découverte. D'abord la radio, je n'en avais jamais fait auparavant. Et puis un plaisir aussi de faire partager la musique classique, qui, c'est vrai, n'avait pas beaucoup sa part sur les ondes. Et c'était l'occasion, justement, peut-être de vulgariser, au sens noble du terme, la musique classique. Je sais que j'avais parfois, quand je sortais des studios, j'avais parfois des jeunes qui étaient en bas à l'inventaire et qui me disaient « Tiens, on t'a écouté, c'était sympa ce que t'as passé. » Et rien que ça, moi je partais le cœur léger en me disant « Bon, si j'ai pu à un moment faire en sorte qu'un jeune qui écoute d'autres musiques, qui sont tout aussi intéressantes d'ailleurs, ait pu sentir et pu apprécier une autre forme de musique, eh bien je me dis que si j'ai apporté ma toute petite pierre à l'édifice de la musique classique et des radios libres, eh bien c'est une de mes fiertés, j'en ai d'autres aussi, mais en tout cas c'est une de mes fiertés dans le monde culturel. J'ai choisi ce soir pour cette émission eh bien, de refaire ce que je faisais d'ailleurs très régulièrement, c'est-à-dire de parler du Festival de l'Épau. J'avais effectivement pour habitude, lorsque nous étions dans la période du Festival de l'Épau, eh bien, de présenter le Festival de l'Épau, de présenter les artistes qui allaient se produire et puis les œuvres qui allaient être données. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que nous fêtons les 40 ans de Radio Alpa et le Festival de l'Épau, un tout petit peu plus jeune, fête ses 38 ans. Donc, deux grands moments culturels dans notre ville, dans notre département, et j'ai même envie de dire pour le Festival de l'Épau, bien au-delà, puisqu'aujourd'hui il rayonne au-delà du département. Donc, c'est un double plaisir pour moi que d'animer ce soir cette émission. Donc, le Festival de l'Épau, qui aura lieu à l'abbaye de l'Épau, mais pas que, du 16 au 24 mai, le Festival de l'Épau, cette année, est plutôt axé sur les musiques romantiques. Et la première présentation que j'ai choisie, c'est de vous présenter Patricia Petitbon, qui se produira Patricia Petitbon, donc, qui se produira au Festival de l'Épau le 20 mai. Patricia Petitbon, c'est une jeune cantatrice, puisque bon, elle est née en 1970, donc on peut encore dire qu'elle est jeune, surtout dans le monde culturel. Et j'ai d'autant plaisir aussi qu'elle a fait ses études tout près de chez nous, au Conservatoire de Tours. Donc là aussi, c'est presque une personne du CRU. Bon, c'est pas tout à fait la même région, mais en tout cas, c'est très proche. Et elle a obtenu des prix, plusieurs prix. Je vais pas tous vous les citer. On n'est pas là pour faire des inventaires. C'est pas ça le plus important. Mais elle a commencé à étudier le piano. Et puis ensuite, elle va se diriger vers l'opéra. Et d'ailleurs, elle enregistre bien souvent des œuvres qui ne sont pas faciles, des œuvres compliquées. D'ailleurs, on dit d'elle qu'elle est la femme la plus excentrique dans l'opéra. Et effectivement, c'est vrai que dans ce répertoire, c'est souvent des rôles d'amoureuses, des rôles d'ingénues perverses, des rôles de bergères, de femmes excentriques. Et elle a d'ailleurs eu un des rôles les plus complexes dans l'opéra du XXe siècle, c'est le rôle de Lulu dans Alban Berg. Donc moi, je vous propose ce soir d'écouter effectivement donc Patricia Petitbon dans une œuvre de Gluck qui est La divinité de Styx. Donc Patricia Petitbon, que vous aurez, si vous le souhaitez, l'occasion d'aller écouter donc au Festival de l'Abbaye de Lépau le 20 mai, donc Tremplin Voix, donc avec Patricia Petitbon, et puis bien sûr tout ce qui tournera donc dans son programme sur la musique romantique, puisque c'est un des sujets, un des thème du Festival de l'Épau de cette année. Puisque nous sommes sur le romantique, bien évidemment, nous ne pouvons pas ne pas parler de Schubert. Schubert qui est un compositeur emblématique de la musique romantique allemande. D'ailleurs, il est reconnu comme étant l'un des maîtres incontestés du Lied. On en veut pour preuve la truite et puis la jeune femme morte. Et il s'est d'ailleurs aussi particulièrement consacré à la musique de chambre, et il a aussi écrit beaucoup, beaucoup d'œuvres pour le piano, des symphonies. C'est un des musiciens, des compositeurs du temps romantique qui a été les plus prolixes. D'ailleurs, bien qu'il soit mort précocement, puisqu'il est mort, il avait à peine 30 ans, Schubert a un catalogue d'œuvres qui compte plus de 1000 compositions. Et une partie importante d'ailleurs, il faut le dire, a été publiée après sa mort, ce qui fait que ses descendants sont restés, alors qu'ils auraient pu vivre des œuvres du père et des grands-pères, et bien, comme bien souvent d'ailleurs à cette époque, les descendants sont restés dans la misère, et Schubert est un des seuls d'ailleurs où les enfants n'ont pas repris la musique derrière. C'est pas comme Bach où on a toute la dynastie. Et bien chez Schubert, nous n'avons eu que Franz Schubert, et je vous propose d'écouter un menuetto d'une sonate en sol majeur, et d'écouter particulièrement le pianiste Adam Laloum, qui est un pianiste qui est vraiment d'un génie. Il fait passer à travers la manière dont il joue du piano, j'ai eu la chance de l'écouter, et c'est quelqu'un qui ne peut pas laisser insensible. On a l'impression que ses doigts courent sur le piano, on a l'impression que les doigts effleurent à peine les touches, et pourtant il y a une tonalité, moi, qui me semble importante, une tonalité qui est forte, même lorsqu'il interprète des œuvres romantiques comme Schubert. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir.
Thank you.
un autre grand de la période romantique. On dit d'ailleurs de lui qu'il aurait été le successeur, on le considère comme le successeur de Ludwig von Beethoven, c'est Johannes Brahms. Brahms est né en 1833 à Hambourg et il n'a pas beaucoup voyagé, contrairement à beaucoup de musiciens de son époque. Il est resté pratiquement toute sa carrière à Vienne, mais cependant sur Vienne, il était une des grandes figures musicales et il a composé des musiques de chambre, des orchestres symphoniques pour voix et chœur, et donc il n'a jamais composé d'opéra. Contrairement aussi à tous ces grands compositeurs du romantisme, il n'a jamais composé d'opéra. C'était un pianiste virtuose et il a d'ailleurs donné beaucoup de représentations de ses propres compositions. Mais il a travaillé avec d'autres compositeurs et d'autres musiciens célèbres et entre autres la pianiste et la compositrice Clara Schumann. Il a composé très tôt puisqu'il a commencé, c'est un peu le petit Mozart aussi, puisqu'il a commencé les cours de piano dès l'âge de 7 ans et jusqu'à 10 ans. Et il avait ce don de pouvoir, comme Mozart d'ailleurs, entendre une pièce et pouvoir la restituer presque aussitôt et presque sans faute, sans erreur. On pourrait dire aujourd'hui, je ne sais pas si à l'époque le terme existait, mais on pourrait presque dire aujourd'hui qu'il avait l'oreille absolue. Il a aussi rencontré d'autres musiciens, le violoniste hongrois Édouard Riemi, et c'est d'ailleurs avec lui qu'il a le premier contact avec la musique tzigane, puisqu'on connaît bien les danses hongroises de Brahms, et donc c'est avec lui qu'il a ce premier contact avec la musique tzigane. Et d'ailleurs, je vous disais qu'il n'avait pas beaucoup bougé, ceci dit, c'est à Hanovre qu'il va donner ses premiers concerts de musique hongroise. Et d'ailleurs, ce sera un succès mitigé, puisqu'il n'était pas forcément un habitué de ce registre. Il a aussi été celui qui a écrit 4 symphonies en l'espace de 9 ans. Et on peut dire, quand on sait le travail que peut représenter l'écriture d'une symphonie, eh bien on peut presque dire qu'il détient pratiquement un record. Et ensuite, il a été très prolixe aussi, et fort heureusement, puisque lui aussi est décédé relativement jeune, bon, plus âgé que Schubert, mais quand même à 60 ans, donc ce qui est quand même jeune. Du moins, malheureusement, ça ne l'était pas pour l'époque. Donc, il a composé ses 4 symphonies en 9 ans. Et ensuite, il a composé beaucoup de concertos pour piano. Il a composé aussi beaucoup d'œuvres de symphonies, mais ce qu'on appelle des petites symphonies, avec simplement un ou deux mouvements. Et puis, bien évidemment, des musiques pour chœur. Et d'ailleurs, c'est ce qui sera donc au violon et au piano, qui sera donné dans les après-midi, le midi musical du mercredi 18 mai dans le cadre de l'abbaye de Lépau. Ce ne sera pas à l'abbaye de Lépau, puisqu'aujourd'hui le festival est un peu déconnecté de l'abbaye, et c'est très bien parce que ça permet aussi parfois à des manceaux qui ne vont pas jusqu'à l'abbaye de pouvoir participer, de pouvoir entendre, de pouvoir écouter. Et puis, un point moi qui me semble intéressant, c'est que depuis quelques années, le festival de Lépau, eh bien, c'est aussi le midi. Et on le voit bien, pour avoir assisté à quelques concerts, on voit bien le midi, eh bien, ce n'est pas forcément le même public que le public du soir à l'abbaye de Lépau. On peut même voir parfois, je pense, des personnes qui travaillent au centre-ville et qui viennent écouter un concert. Et je pense que ça aussi, ça favorise la démocratisation, la vulgarisation. Et quand j'emploie ce mot, j'insiste bien, c'est un mot qui n'est absolument pas désagréable dans ma bouche, mais ça permet justement de pouvoir donner à écouter la musique peut-être à un public qui habituellement ne viendrait pas. Donc moi je vous propose d'écouter effectivement Brahms, bien sûr, un Scherzo de Brahms qui est interprété par Capuçon. Les frères Capuçon, où je reviendrai tout à l'heure puisqu'ils se sont donnés l'un et l'autre au Festival de Lépau, et cette année aussi il y a un des frères Capuçon, mais je vous laisse écouter dans un premier temps le Scherzo de Brahms et nous reviendrons sur les frères Capuçon ensuite. Thank you. Alors je pense, un des concerts les plus surprenants que nous aurons sur ce festival de l'EPO, c'est celui du 21 mai avec Back Mirror. Back Mirror, c'est un pianiste, Thomas Enko, et puis une marimba qui est Vassinella Serafimova. Et en fait, ils nous donneront un concert qui sera un miroir entre le passé et le présent. C'est ce qu'ils nous proposeront, un peu comme un reflet entre le ciel et la mer. Et pourtant, Jean-Sébastien Bach, c'est un classique aussi qui est réputé pour ses musiciens, la famille Bach, puisque les Bach pratiquent cette profession à l'époque où on a déjà vu un nombre de plusieurs dizaines qui exercent comme musiciens à la cour. Et Jean-Sébastien Bach se situe, lui, dans la cinquième génération. Il est donc de ce fait, il va exercer une sorte de monopole sur toute la musique pratiquée dans la région, les familles Bach. Et ses membres sont musiciens de la ville, de la cour, des églises. Ils sont cantors, facteurs d'instruments. Mais en tout cas, ils vont dominer pendant plusieurs générations toute la musique dans les villes de la région. On dit que Jean-Sébastien Bach est le membre le plus éminent de la famille Bach. Et d'ailleurs, c'est celui qui sera aussi le plus prolixe de toutes les générations. Et sa carrière va aussi, il ne sera pas un grand voyageur non plus, puisque toute sa carrière va se dérouler en Allemagne centrale et toujours dans le cadre de sa région natale. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, au service de petites municipalités, au service de cours princières, mais sans grande importance dans la graduation politique. Et puis, le conseil municipal de Leipzig qui va l'utiliser, parce qu'en fait, on voit bien dans des écrits, dans des témoignages de l'époque, que ce conseil municipal va lui donner bien peu de considération. Et ainsi, il n'aura, on peut le dire, jamais de poste qui sera à la mesure de son importance musicale. Et malgré cette considération, eh bien, il aura quand même la grande considération d'un des souverains allemands, Frédéric le Grand. Comme beaucoup des Bach, sa formation va être assurée dans un premier temps par son père, puis ensuite par son frère aîné. Mais c'est aussi un autodidacte qui est passionné de son art et qui va développer la science de la composition. Et plus particulièrement, un point qui est très cher et qu'on reconnaît beaucoup dans les musiques de Bach, c'est le contrepoint. Il va l'utiliser, il va composer jusqu'à un niveau d'ailleurs qui aurait été inconnu avant lui et comme le disent les grands musicologues, qui n'aura en tout cas jamais été dépassé encore à ses jours. Jean-Sébastien Bach est un virtuose de plusieurs instruments de musique, puisqu'il jouera du violon, de l'alto, mais c'est surtout pour ses œuvres à l'orgue et au clavecin qu'on le reconnaîtra. Ce que je vais vous faire écouter, c'est très particulier. La musique de Bach, elle a toujours été présente dans nos vies. C'est vrai qu'on l'écoute, que l'on soit enfant, que l'on soit adulte, c'est de toute façon une musique que l'on a, je pense, toutes et tous écoutées. C'est une musique en général qui inspire, qui donne de la profondeur. C'est une musique, on peut presque dire, qui est à la perfection. Eh bien, Back Mirror a voulu se faire refléter le passé dans le présent, des rythmes occidentaux dans des rythmes orientaux, le sacré dans le profane, la réalité dans le rêve et l'improviser dans l'écrit, et tout ça avec des nuances de jazz et de classique. Je vous propose donc d'écouter Que ma joie demeure par le Back Mirror. Thank you. Voilà, donc moi je ne vous cache pas que c'est un peu mon coup de cœur de ce festival. Je n'ai pas entendu bien évidemment le concert, il va de soi, mais voilà, j'ai écouté ce disque, du moins que nous venons d'entendre. Et s'il y a un concert qui peut être un peu surprenant, je pense que c'est celui-ci. Donc je rappelle le concert Back Mirror le 21 mai dans le cadre du Festival de l'EPO. Festival de l'EPO, eh bien, on va faire un petit peu de publicité quand même, où vous pouvez bien évidemment continuer à réserver vos places. Donc soit à l'abbaye de l'EPO directement, donc sur les heures d'ouverture, donc le mercredi au dimanche de 11h à 17h30, mais également par internet à epo.sarthe.fr. Et là, vous pouvez également réserver, payer par carte bancaire et retirer vos billets avant le concert. Par téléphone aussi, c'est au 02 43 54 72 70. Et puis aussi sur tout le réseau billetterie de la région Ouest où, bien sûr, vous pouvez réserver. Et puis, si vous n'avez pas peur d'arriver et de ne pas avoir de place, eh bien, tentez aussi d'aller le jour même du concert sur les lieux à l'abbaye de l'EPO. Attention, il y a déjà certains concerts qui sont complets. Donc, téléphonez quand même avant, savoir s'il reste de la place. Et bien évidemment, il faut que vous arriviez 45 minutes avant le début du concert déjà et il vous sera délivré des places dans les limites des places disponibles bien évidemment. Donc je rappelle le Festival de l'EPO du 16 au 24 mai, 38e édition. Les frères Capuçon, tout à l'heure je vous en parlais, l'année dernière nous avions eu l'honneur d'avoir Gauthier Capuçon, cette année c'est Renaud Capuçon, le frère. Renaud Capuçon, lui, il va aussi rentrer très tôt au conservatoire, puisqu'il va rentrer à Chambéry, au conservatoire de Chambéry, à l'âge de 4 ans. Et puis, bah, très très rapidement, il va intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, puisque là aussi, on a affaire à un génie. Et il va en ressortir plus tard, 3 ans plus tard, avec un premier prix de musique de chambre, un premier prix de violon, s'il vous plaît. Donc, quand même relativement jeune, puisqu'il n'aura que 18 ans lorsqu'il sortira avec ses premier prix. Alors durant les années qui vont suivre, il va bien évidemment participer à de nombreux concours internationaux, comme beaucoup de jeunes. Hein. Il va intégrer des orchestres de jeunes et entre autres celui de la Communauté économique européenne, un Européen. Et puis il va intégrer aussi les jeunes, l'orchestre des jeunes de Gustave Mahler, où il sera premier violon. Et il jouera sous la direction de Claudio Abbado, là aussi un grand chef d'orchestre qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il va en même temps, parallèlement à cela, entreprendre une carrière de soliste, mais également une carrière de chambriste et avec son frère cadet, Gauthier Capuçon, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, non content d'avoir un tel succès, eh bien, il va aussi fonder un festival à côté de Chambéry, les Rencontres artistiques de Bel Air. Et ce festival accueille d'ailleurs depuis pendant près de 10 ans les plus grands instrumentistes de musique de chambre comme Michel D'Alberto, Augustin Dumay, Gérard Cosset ou encore, s'il vous plaît, Katia et Maria Labec, qui sont aussi de grandes concertistes. Et puis, il est infatigable. Eh bien, en 2013, il va créer le Festival de Pâques à Aix-en-Provence et il en sera d'ailleurs le directeur artistique. Il a très régulièrement enregistré des musiques de chambre. Et là, bien évidemment, on le retrouve aussi sur un registre plutôt romantique, Ravel, Schubert, Brahms, et puis des concertos pour violon, Schumann, Mendelssohn. Donc, vous voyez, on est toujours quand même dans le romantisme. Le 13 mars, parce que on le verra aussi avec Gauthier Capuçon. Les frères Capuçon ne sont pas simplement que des musiciens, que des grands artistes. Ce sont aussi des personnes qui s'impliquent dans la vie, je dirais, de tous les jours. Et le 13 mars 2020, donc à la suite des interdictions de rassemblement liées à la pandémie du Covid-19, eh bien, ils demandent au ministère de la Culture un plan d'urgence pour aider les artistes qui subissent annulation sur annulation. Et d'ailleurs, pendant le confinement, il va donner tous les jours des concerts en direct sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vous cache pas que je l'ai découvert un peu tardivement, mais j'étais devenue, pendant le confinement, une accro des concerts de Renaud Capuçon. Et d'ailleurs, le 10 avril 2020, Renaud Capuçon anime la vénération de la couronne d'épines dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vénération qui d'ailleurs a été donnée à ciel ouvert et qui a été désertée parce que l'incendie avait quand même fait de gros ravages. Et on verra tout à l'heure aussi que Gauthier Capuçon n'est pas resté insensible à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En tout cas, tout ça, eh bien, il faut quand même le noter, pendant la pandémie, donc il a continué à vouloir jouer de la musique, à nous faire entendre de la musique. Et je pense que rien que pour ça, si on peut aller l'écouter à l'Abbaye des Pots, surtout, il ne faut pas hésiter. C'est le 18 mai. Ce sera dans le cadre du dernier CD qu'il a sorti, Un violon à Paris. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter la première plage de ce CD, c'est une œuvre de Handel, c'est la sonate pour violon, et ce sera le Larghetto. Voilà, Renaud Capuçon, donc un extrait dans son dernier CD, Un violon à Paris, dont il donnera d'ailleurs des œuvres le 18 mai à l'Abbaye de Lépaux. Quand on parle des frères Capuçon, on peut bien évidemment ne pas oublier Gauthier Capuçon. Donc Gauthier Capuçon ne se produira pas cette année à l'Abbaye de Lépaux, mais il était invité l'année dernière. Gauthier Capuçon est un peu plus jeune que son frère, puisqu'il est né en 1981, et lui, il a aussi un instrument à cordes comme prédilection, mais ce n'est pas le violon, c'est un violoncelle. Donc il est le frère du violoniste Renaud Capuçon, et il a lui aussi obtenu des prix très tôt, prix de violoncelle, prix de piano, toujours aussi à Chambéry. Et puis, comme son frère, il va partir sur Paris, où là... très, très tôt, en 1998, il obtiendra, donc il a 17 ans, donc, et on a vraiment affaire à de jeunes prodiges, le premier prix de l'Académie internationale de musique de Maurice Ravel, de Saint-Jean-de-Luz. Et puis, les années suivantes, eh bien, il va enchaîner plusieurs récompenses d'envergure internationale. C'est lui aussi un interprète de musique de chambre ou un soliste d'orchestre. Et Gauthier Capuçon est aussi partenaire de quelques-uns des interprètes les plus prestigieux de notre époque. Son frère Renaud, bien évidemment. Les pianistes Nicolas Angélic, Martha Argerich, Franck Bralet, Hélène Grimaud. Et on retrouve à nouveau, encore une fois, les frères Katia et Marielle Labec. Il interprète, lui, aussi bien du répertoire classique que romantique, et puis aussi du répertoire moderne. Mais les œuvres dans lesquelles il excelle le plus, c'est Beethoven, Brahms, Shostakovich, Handel, Ravel, Saint-Saëns, Schubert. Donc là aussi, quand même, de grands compositeurs. Tout à l'heure, je vous parlais du côté humain, du côté, on va dire, populaire de Renaud Capuçon. On n'oubliera pas non plus cette image poignante, au matin du 16 avril 2019, donc le lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, où il va s'installer devant les cendres encore fumantes, devant les personnes encore complètement bouleversées par cet incendie. Et il va jouer, après un rêve, au violoncelle, seul, dans un espace public, tout proche de Notre-Dame. Et ça nous rappellera quand même que les musiciens sont des personnes engagées, des personnes qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, se dire ils vivent dans leur monde, ils sont dans leur musique, ils sont dans les arts. Bien non, parce que dans un passé quand même très récent, on a le violoniste russe Rostropovitch qui avait joué à la chute du mur de Berlin, et je pense qu'on a tous et toutes aussi, même si c'était en 1989, en tout cas si on ne l'a pas vécu en direct, je pense qu'on a tous vu ces images effectivement de Rostropovitch assis devant le mur de Berlin en train de tomber et jouant de son instrument. Et puis il y a le joueur de viol de gambe Jordi Savall qui avait joué aussi lors des attentats de Madrid le 11 mars 2004. Et on peut dire que ce sont ces artistes, que ce soit Gauthier Capuçon, que ce soit Renaud Capuçon, que ce soit Rostropovitch, Savall et puis bien d'autres d'ailleurs. Moi, je pense que ce sont des artistes de grand cœur. Et pour ça, je crois qu'il faut casser cette image des artistes dans leur monde qui sont voilà, dans un monde parallèle, dans un monde dans lequel on n'est peut-être pas. Eh bien non, ce sont des personnes qui ont un grand cœur et qui sont capables d'humanité et de prendre eux aussi leur part de ce qui peut arriver au commun des mortels. Je vous propose toujours sur le violon, le CD « Un violon à Paris », d'écouter toujours Renaud Capuçon, d'écouter une pièce de Bach à nouveau, qui est la suite orchestrale, donc toujours au violon bien évidemment.
Thank you.
Eh bien voilà, Modulation prend fin. Ça a été un vrai plaisir pour moi de revenir dans les studios de Radio Alpa, de refaire cette émission, de repenser au temps des années 1985. C'est pas de la tristesse, c'est de la nostalgie. En tout cas, pour moi, ça a été un moment merveilleux et de faire cette émission, de refaire cette émission et aussi de faire pendant 7 ans, d'animer pendant 7 ans Modulation. Ce soir, je tiens à remercier Jean-Yves. Merci de m'avoir donné l'antenne pour une heure. Merci à Simon de m'avoir accompagné et heureusement parce que les techniques sont nouvelles et j'avoue que si je m'étais retrouvée comme je l'étais il y a 35 ans, j'aurais eu beaucoup de mal avec toutes ces diodes qui clignotent de partout, tous ces boutons. Et puis vous me permettrez de faire une petite dédicace. Je crois qu'il m'écoute et je voudrais remercier mon compère qui parfois lui aussi me faisait ma technique. Coco, salut à toi et merci pour toutes ces années.